Auditrices, auditeurs, bienvenue sur les bonnes ondes de Comme à la radio. L'émission à écouter, à réécouter, à emporter et à partager de la comédie de Colmar. Participe à ces podcasts Lily, Gaspard, Julien, Léa, Annelise, Michaela, David, Pierre, Paul et les autres. Membres de notre jeune troupe de théâtre mutualisée avec la Comédie de Reims, nos artistes associés, notre collectif artistique et bien d'autres intervenants issus du monde du spectacle, mais pas que. Chaque épisode s'arrête sur une des thématiques qui traverse notre saison et permet d'offrir une lecture enrichie, un regard augmenté. À présent, réglez votre poste, fermez les yeux et tendez vos antennes. Vous êtes sur la bonne fréquence, c'est comme à la radio. Thème de ce podcast, les histoires d'amour finissent mal, en général. Comédie de Colmar. Pour Jeanne Candel, artiste associée à la Comédie de Colmar, un crocodile, ça trompe énormément. Interview avec la metteuse en scène de Crocodile Trompeur, Didon et Aîné, d'après l'opéra de Purcell. Jeanne, les histoires d'amour finissent-elles forcément mal ?
Oh là là. Oui. Totalement. Faut pas se prendre la tête en amour. C'est trop de temps perdu.
Est-ce que tu... Alors, tu me réponds ça comme ça, mais est-ce que tu appliques cette,
pas du
cette
tout.
Théorie de la vie
pas du tout,
bref,
évidemment.
Se prendre la tête en,
évidemment
en
que non. C'est bien pour ça que je...
C'est un conseil que tu nous donnes.
Bien sûr.
Que, bien sûr.
Bah, évidemment. Ouais. C'est l'enfer. Non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Infernal. Non. Bah, écoute, je ne l'applique pas du tout à moi-même, mais qui se l'applique ? Je ne sais pas. Qui réussit ?
Aucune idée. La musique est très présente, et pas seulement dans l'opéra, parce que c'est un opéra, Crocodile Trompeur, où Purcell est quelque peu maltraité. Est-ce qu'elle te permet de faire passer la pilule de la douleur que peut provoquer, par exemple, un amour contrarié ?
Oui, je pense que ça, c'est vraiment un petit antidote, une petite... Mais je dirais la musique, quand elle fait danser, alors. Là, un truc plus... Quand elle provoque le corps, quand elle emmène le corps dans des régions un peu sauvages, un peu pulsionnelles, un peu... Donc oui, la musique, elle peut nous entraîner et nous guérir, peut-être.
Mais plutôt que la musique entraînante.
Comment ?
Ça dépend des situations.
Oui, 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 oui.
Un chagrin d'amour, ça va être la musique entraînante, mais un flop pour une pièce de théâtre, ça ne sera pas forcément ce type de musique.
Oui, non, je pense que chaque musique peut être circonstanciée à une... Oui, c'est bien d'avoir une petite musique pour chaque situation.
Par exemple, pour un amour contrarié, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ?
Oh là là, attends. Pour un amour contrarié... Mes filles pourraient m'aider peut-être, parce qu'elles ont vraiment plein de musique en ce moment.
Dansante.
Ouais, un peu dansante, mais un peu dégueulasse.
Un peu dansante et dégueulasse.
Ouais.
Là, vraiment,
Non, mais tu vois,
beaucoup avoir
le titre,
un titre,
ouais, il faudrait que je t'en donne. Mais je sais pas, là, j'ai pas les titres, en plus, je suis pas très bonne en titres. Mais,
mais
quelque chose de dansant, mais assez, où t'as pas le choix en fait. T'es obligé de danser, tu vois. Qui te donne pas le choix de.
D'accord,
Te laisses entraîner.
On ne tergiverse pas, on danse.
Ouais, on danse.
Ok.
On réagit comme ça, quoi, on danse.
Pourquoi Didon est né et pas Roméo et Juliette ou Pyrrha et Thisbé ?
Alors, déjà parce que Purcell, c'est vraiment beau. C'est vraiment Purcell qui nous a attirés. Et que ça nous transporte, cette musique quand même. Mais là, pour le coup, un endroit des entrailles. Donc ça, c'est le premier, je dirais, on tombe amoureux de la musique en premier, de Purcell. Et après, Roméo et Juliette, Pyrrha et Thisbé, oui, c'est des amours tragiques aussi. On aurait pu plonger là-dedans, mais c'est vraiment Purcell qui nous a attirés.
Alors, j'avais une dernière question qui, évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin.
Bien sûr.
Ce serait plus difficile. Est-ce qu'on peut reconstruire l'amour sur des ruines ?
C'est un peu... C'est marrant que tu me demandes ça, parce que c'est un peu... un motif de ma prochaine création. Est-ce qu'on peut renaître sur des ruines ? Bah oui. Oui, et on prend les ruines et on fait des nouveaux trucs et on fait des nouvelles constructions un peu cubistes et on imagine des nouvelles choses.
Ça va bien avec ton idée de matériothèque de l'aquarium.
Absolument.
On peut reprendre du vieux matériel et ouais. Faire du neuf.
Ouais. Oui, je pense. Oui, sinon on est trop entraîné dans... du côté morbide. Ouais, il faut. Ouais. Bricoler.
Extrait des 5 poèmes de Paul Éluard de Francis Poulenc. Amoureuse par Yanis Gossin, ténor, et Levi Gerke, piano.
Elles ont les épaules hautes et l'air malin, ou bien des mines qui déroutent. La confiance est dans la poitrine, à la hauteur où l'aube de leur sein se lève pour dévêtir la nuit. Des yeux à casser les cailloux, des sourires sans y penser, pour chaque rêve, des rafales de cris de neige et des ombres déracinées. Il faut les croire sur baiser, et sur parole et sur regard, et le baiser que leur baiser. Je ne montre que ton visage, les grands orages de ta gorge, tout ce que je connais et tout ce que j'ignore. Mon amour.
Dommage qu'elle soit une putain, de John Ford, par Marion Bouquet, comédienne et metteuse en scène, co-directrice de la compagnie Le Veilleur.
Les histoires d'amour finissent mal. Cas pratique. Dommage qu'elle soit une putain. Dommage que quoi ? Giovanni, Annabella. J'ai trop longtemps étouffé le feu qui m'a consumé presque entièrement. J'ai passé plus d'une nuit en soupirs et en gémissements. J'ai tourné et retourné toutes mes pensées. J'ai tenté de braver mon destin, j'ai éprouvé les raisons de mon amour, mais tout se révéla inutile. C'est mon destin. Vous devez m'aimer ou je dois mourir. Vous êtes mon frère, Giovanni. Et vous, ma sœur, Annabella, je le sais, et je pourrais vous faire comprendre que nous devons nous aimer d'autant plus pour cela. La sage nature, en vous créant, déjà vous a faite mienne. Autrement, c'eût été un péché monstrueux de parer d'une même beauté deux âmes jumelles. Les liens de la naissance et du sang nous engagent à resserrer les liens de l'affection. J'ai demandé conseil à la Sainte Église, qui me dit que je peux vous aimer. Il est donc juste que, puisque je le peux, je le fasse. Et je le veux, oui, je le veux. Dois-je maintenant vivre ou mourir ? Dommage qu'elle soit une putain. John Ford, 1626. Traduction d'Yves Bonnen et de Marion Bernède. Le désir, ça fait faire des choses. On se défie, on se mord, on s'étreint, on s'arrache, on se mange, on s'asperge, on s'échappe, on s'évite, on s'éteint, on s'ennuie, on se lasse, on se fait pitié, on se sourit, on se manque, on n'ose pas, on a peur, on casse, on se casse, on se casse les jambes et le cœur. On se reconnaît plus, on s'ignore, on s'insulte, on s'éclipse. On s'attend, on se pleure, on se veille, on fait le deuil, on s'enlace, on s'élance, on se désire, on se méprise. C'est Marguerite Duras qui disait, dans Agatha, en 1981, « L'inceste ne peut être vu du dehors. Il n'a pas d'apparence particulière. Il ne se voit en rien. Il en est de lui comme de la nature. Il grandit avec elle, meurt sans jamais être venu au jour, reste dans les ténèbres du fond de la mer. » De toutes les manières ou les formes de l'amour et du désir, il se joue. De toutes les sexualités, diffuses, parallèles, occasionnelles, mortelles, il se joue de même. De son incendie, il ne reste rien. Aucune scorie. Aucune consommation. Après lui, la terre est lisse. Et le passage est ouvert. John Ford, Lui, il décrit la combustion de deux êtres. Une sœur, un frère, des jumeaux, dont l'amour ronge les organes intérieurs. Une maladie du désir qu'aujourd'hui on ne peut plus dire. Mais c'est en pleine conscience d'un destin fatal que les deux personnages font le choix risqué de s'aimer. Alors choix risqué, mais choix d'une extrême liberté. Parce que quand même, le monde qu'écrit Ford doit être bien noir si l'amour incestueux est la seule chose qui vaut la peine d'être vécue. En fait, c'est une pièce où l'amour, où cet amour-là, est la seule trace d'humanité. Et je lis toujours « Dommage qu'elle soit une putain » comme un poème sur le désir. Comme un mouvement qui cherche les limites de l'éternité. Parce que c'est eux-mêmes qu'ils essayent de prolonger en s'unissant un à l'autre. Cette recherche de l'âme sœur. Parce que finalement, est-ce qu'on préférerait pas trop aimer que de finir par ne plus aimer ?
Illustration visuelle et sonore, comme un baiser avec la langue par Lily Terrana. Création musicale originale d'un morceau qui donne envie d'aimer et d'être aimé, Re-Love Me, par Michaela et David de Ferguson.
Les histoires d'amour finissent mal. Oui, en général. Puisque quelle que soit la durée de l'amour partagé, il y en a toujours un des deux qui part avant l'autre. Sauf dans le cas d'Ida et d'Isidore, les époux Strauss. Morts d'un ultime commun accord le 14 avril 1912 sur le pont du Titanic. Ils ont choisi de rester ensemble jusqu'au bout. Une histoire qui finit mal, mais un amour qui finit bien, puisqu'il ne finit pas. Un amour infini. The real thing. The real thing.
I still love you. 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 I still love you.
Reload the love actually.
Tout l'imaginaire de l'amour romantique et les adaptations, variations et blockbusters autour de Roméo et Juliette par Marion Bouquet, comédienne et metteuse en scène.
Les histoires d'amour finissent mal. Cas pratique, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, ou le top 5 mondial et intemporel des histoires d'amour qui finissent mal. Bon, pas que vous en ayez besoin, mais je vais vous faire un petit rappel. Roméo et Juliette, c'est écrit par Shakespeare, probablement entre 1591 et 1595. Juliette est adolescente, hein, 13 ans à peu près, et Roméo pas beaucoup plus vieux. Leurs familles sont pas copines-copines, hein, c'est même assez sanglant. Mais lors d'une soirée que Roméo et sa bande ont infiltrée, ils vont tomber amoureux, sans se reconnaître. Roméo décide de stalker Juliette sur son balcon pendant qu'elle parle aux étoiles de ses problèmes de love. Là, bon ben, ils décident de s'aimer, malgré les problèmes de mafia familiale. Alors ils se marient discrétos. Mais une petite rixe éclate et Roméo est banni de Vérone. Bon, alors faut savoir que la main de Juliette est promise à un mec plus vieux qu'elle et ils doivent se marier. Du coup, stratège, Juliette prend une potion pour faire semblant d'être morte. Mais Roméo reçoit jamais le message expliquant, le dit stratège. Cœur brisé, il se suicide pensant la rejoindre. Bim, ben, quand elle se réveille, hein, voilà que la première vision qu'elle voit, c'est le corps de Roméo mort à côté d'elle. Donc elle chope un poignard et met fin à ses jours à son tour. Moralité, laissez s'aimer qui veut. Hein ? Roméo et Juliette, c'est devenu des figures emblématiques, des héros romantiques, des modèles auxquels on a eu envie de s'identifier parce que, selon l'époque, une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, à ce qui paraît. Aimer, c'est monter si haut. Sur la scène théâtrale française actuelle, on compte pas moins de 45 adaptations, variations, mises en scène de l'histoire tragique de Roméo et Juliette dans les 10 dernières années. Et puis à ce nombre s'ajoutent les réécritures, les inspirées d'eux, les West Side Story en tout genre. Parce que c'est un matériau sans fin, Roméo et Juliette. Une dramaturgie qui peut se tordre, se distordre. Parce qu'en fait, ce qui nous fascine au fond, c'est le drame. La fin tragique, c'est l'histoire d'amour qui se termine mal. Un peu comme chez Pascal Rambert. Je voulais te voir pour te dire que ça s'arrête. Ça va pas continuer. On va pas continuer, ça va s'arrêter là. On peut pas continuer à toujours, tu comprends? Toi, évidemment, toi, c'est quelque chose pour toi, bien évidemment, de ne pas. On le voit déjà, tout cela saute aux yeux, ça saute aux yeux. Pourquoi? Pourquoi le drama? Shakespeare, Rambert, partout, ça, en fait, ça fait mal, une fin d'histoire d'amour, c'est moche et ça fait salement mal. Alors pourquoi on a tout le temps envie d'en parler? Ouais, peut-être parce que c'est beau. Oui, d'accord, c'est beau les mots de Roméo. Mon amour, ma femme, la mort qui a sucé le miel de ton haleine n'a pas encore eu de pouvoir sur ta beauté. Elle ne t'a pas conquise. La flamme de la beauté est encore toute cramoisie sur tes lèvres et sur tes joues, et le pâle drapeau de la mort n'est pas encore déployé là. Chère Juliette, pourquoi es-tu si belle encore? Dois-je croire que le spectre de la mort est amoureux et que l'affreux monstre décharné te garde ici, dans les ténèbres, pour te posséder? Je veux rester près de toi et ne plus sortir de ce sinistre palais de la nuit. C'est ici que je veux fixer mon éternelle demeure et soustraire aux joues des étoiles ennemies cette chair lasse du monde. Un dernier regard, mes yeux. Bras. Une dernière étreinte.
Pour Jean-Baptiste Poquelin, et nous le savons très bien, l'amour n'est pas qu'imaginaire. N'est-ce pas, Paul Schirch ?
L'impromptu de JB, une émission proposée par Monsieur Poquelin, dit Molière. Une émission qui vous fait explorer avec le plus grand auteur de théâtre de tous les temps la présence d'une thématique dans l'écriture théâtrale actuelle. L'impromptu de JB.
Eh bien, bonjour ou bien bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui le dernier podcast de mon émission L'impromptu de JB, intitulé Les histoires d'amour finissent mal, en général. J'espère que ce ne sera pas le cas du lien indéfectible qui m'unit maintenant à vous, mes chers auditeurs. Ah, l'amour, sentiment le plus puissant de la vie et qui sera pour toujours le sujet le plus fort de tout récit pour qui veut éprouver des émotions fortes. Je n'en suis pas en reste, et il me suffirait de vous citer, par exemple, le nom de Don Juan, ou de l'amour de Célimène et d'Alceste dans le Misanthrope, pour vous rappeler à quel point cette thématique est présente dans mon œuvre. Mais qu'en est-il dans le théâtre contemporain? Voici une petite sélection pour vous aiguiller. Commençons par « Girls and Boys » de Denise Kelly, paru à l'Arche en 2019. Une femme raconte l'histoire de sa rencontre et de sa relation avec son mari dans un monologue au ton léger et décalé. Cependant, la comédie joyeuse des débuts, rencontre truculente dans une file d'attente d'EasyJet, relations amoureuses et enfants, vire rapidement au drame. Qu'est-ce qui pousse un être humain à commettre l'impensable? En disséquant les rouages d'une vie intime de l'étincelle du début jusqu'à l'irréparable, Denise Kelly nous offre une pièce puissante, qui ne vous laissera pas insensible. La langue est puissante, le rythme endiablé. Poursuivons avec « Vent contraire » de Jean-René Lemoyne au Solitaire intempestif, paru en 2016. Rien de mieux pour vous donner envie que de vous citer ceci. « Je ne te refuse pas mon corps. Je le mets à ta disposition, jusqu'à la satiété. Je veux seulement que tu acceptes la liberté, la fluidité, le va-et-vient, la circulation de mon désir. Dans 3 ans, dans 10 ans, comment nous aimerons-nous? Qui dit que nous ferons l'amour? Nous ne ferons probablement plus l'amour. Nous n'aurons plus envie, c'est comme ça. C'est la banalité de la passion. Mais la disparition progressive du désir ne nous affectera pas outre mesure, car nous possédons désormais une vision qui va au-delà de la monogamie improductive, au-delà de l'obsolescence des corps, une vision grandiose, totale, absolue, celle de construire un projet sans limite, en exploitant mes compétences et en monnayant ton talent. Une langue d'une poétique rare, des sujets d'une actualité brûlante font de cette pièce un coup de cœur puissant, à lire de toute urgence. Continuons avec « Rien de moi » d'Arne Ligre, paru à l'Arche en 2014. Une femme et un homme plus jeune aménagent dans un appartement vide. Ils s'isolent du monde extérieur. Mais leur vie en symbiose va être perturbée par la visite de figures du passé, mère, enfant, mari, puis par le danger que chacun fait courir à l'autre au sein de cette relation. Qui a déjà vu ou lu du Arne Ligre s'en souvient forcément. Voici une pièce très fine sur la relation amoureuse, l'écart d'âge, la reconstruction. Sublime. Terminons avec « Illusion » d'Ivan Viripayev au Solitaire intempestif, paru en 2015. 4 narrateurs viennent conter l'histoire de 2 couples mariés qui, au terme d'une vie bien remplie, tentent de se dire leur vérité, de s'avouer leur joie et leur résignation. Que reste-t-il quand tout a été vécu et que tout n'a pas été comme on l'imaginait? Là encore, un texte coup de cœur qui renvoie à chacun à ses expériences et son intimité, qui fait aimer l'être humain et ses passions dans tout ce qu'il y a de complexe et bouleversant. Nous voilà arrivés au terme de notre voyage ensemble cette saison. J'espère que mes conseils vous auront plu et que vous ferez de belles lectures. Nous nous recroiserons sûrement. Il paraît que je fais partie des immortels. À très bientôt et bonne lecture.
Le micro-trottoir de Gaspard. Love Stories dans les rues colmariennes par Gaspard Raymond.
C'est quoi une histoire d'amour réussie? Ce serait quoi?
Selon moi, je ne sais pas. C'est pour ça que j'adore la chanson de Johnny, Derrière l'amour.
Qu'est-ce qu'elle dit, la chanson?
Derrière l'amour, il y a... qu'est-ce qu'il y a? Toute une chaîne de pourquoi. La chanson, elle dit tout.
C'est quoi une histoire d'amour réussie? Parce qu'en fait, je suis très mauvais en amour et j'aimerais bien avoir des réponses.
Alors, quand j'aurai la réponse, je pourrai te la donner parce que j'ai pas réussi encore non plus. Voilà, à mon âge, j'ai 60 ans et j'ai pas réussi à trouver la recette.
On reste en contact si t'as des infos comme ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup en tout cas. C'est quoi une histoire d'amour qui est réussie? Parce que je suis très mauvais et j'ai envie d'avoir des réponses. Donc aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi.
I'll go first. Pour moi, une histoire d'amour qui réussit, c'est une histoire d'amour qu'on ne cherche pas. Ça sert à rien de chercher l'amour, en fait, parce qu'on va juste tomber sur des déceptions en permanence. Le mieux, c'est d'arrêter de chercher. Une fois que vous avez arrêté de chercher, l'amour, ça vous tombe du ciel comme ça. C'est pas pour rien qu'on dit tomber amoureux, hein, d'ailleurs. Et ça peut durer 2 mois, 3 mois, 1 an, toute votre vie. On s'en fiche, c'est ça une histoire d'amour qui réussit. Et évidemment, il y a évidemment tout ce qui est communication, confiance en l'autre, confiance en soi aussi, c'est très important, parce que comment on peut avoir confiance en l'autre sans avoir confiance en soi, ça c'est très compliqué. Mais je trouve que l'élément principal, c'est arrêter de chercher, faites votre vie, et vous verrez que ça vous tombera tout seul, vous vous en rendrez même pas compte quand ça arrivera, et au moment où vous vous en rendrez compte, vous serez en mode « mais j'ai bien fait d'arrêter de chercher en fait au final ».
Ok, merci. J'ai plus de questions. J'aimerais bien en avoir d'autres parce que c'est passionnant de vous écouter, mais là, j'ai plus rien.
Une histoire d'amour réussie. Je ne sais pas si on réussit en amour. Je pense que la priorité, enfin, je crois, hein, la personne qu'on aime d'abord, en premier, c'est soi-même. Ensuite, c'est de le partager avec quelqu'un qu'on peut aimer, ou qu'on va aimer, ou qu'on aimerait aimer. Mais c'est aussi et surtout, je crois, chez l'autre, la réciprocité. Donc une histoire d'amour réussie, si on parle de réussite, et j'ai des grands-parents qui ont vécu 67 ans de mariage, donc c'est une belle histoire, c'est la réciprocité. Et c'est la grande liberté au-delà de la confiance.
Merci, super réponse Philippe. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'amour réussie, Rose?
Bah pour moi, une histoire d'amour réussie, c'est pas forcément finir sa vie ensemble, mais c'est être heureux pendant l'histoire.
Voilà. C'est profond. Bah pour moi, c'est quand vous arrivez tous les deux à partager le même sentiment et à réussir à vraiment être ensemble et à être à fond dedans. Et même si ça dure pas toute la vie, que ce soit genre un moment qui reste gravé, quoi. Voilà. Et un bon moment.
Le bonheur, c'est tout. Vraiment, c'est tout ce qui me vient en tête.
Moi, je pense que c'est quand on se comprend avec la personne, qu'on partage les mêmes plaisirs, et qu'on passe de bons moments ensemble.
Et du coup, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'amour réussie. Si vous avez des petits conseils, des petits tips.
Voilà. Compliqué ça, hein, parce que on sait jamais sur qui on tombe, alors faut composer, suivant.
Une histoire d'amour réussie, pas une ratée.
Oui, mais justement, ça sent souvent raté, quoi, c'est ça le problème.
Non, elles sont pas souvent ratées, les histoires d'amour. Ah non.
Déçu, on va dire. Hein,
ouais. Bon, je sais pas, moi, une histoire d'amour réussie, bon...
C'est qui dure tout le temps.
Oui, bien sûr, qui dure, mais bon, il faut quand même beaucoup de... Mais toi, je ne trouve pas du tout mes mots, moi,
oui,
aujourd'hui.
Hein, t'es impressionné,
c'est inimaginable.
Je ne voulais pas vous mettre dans cet état, Paulette.
Il faut être tolérant, il faut être...
Faut composer.
Respectueux de l'autre, il faut être... Je sais pas trop quoi dire.
Oui. C'est déjà super. Je suis nul en amour. Je suis une patate et je cherche des conseils auprès des gens. Du coup, est-ce que tu pourrais me dire comment je pourrais réussir une histoire d'amour? C'est quoi une histoire d'amour réussie?
Moi-même, ayant vécu... j'ai 38 ans. Plusieurs histoires d'amour. Certaines ont duré 6 ans ou d'autres plus. Si j'avais su trouver le bonheur faire l'adéquation pour que ça fonctionne, je pourrais te le dire. Sinon, autrement, être à l'écoute, respecter sa femme, être attentif aux moindres petites choses, ne pas être égoïste, le partager. Désolé pour les auditeurs, c'est mon chien. Et en fait, déjà pas d'adultère, ni tromper l'un ni l'autre. Et je pense qu'à partir de ces bases-là, ça devrait fonctionner plutôt pas mal.
C'est quoi pour toi, Jean, une histoire d'amour réussie ?
Bah, c'est déjà, l'histoire d'amour, c'est déjà un grand hasard, ce coup de foudre. Mais un amour réussi, ça n'existe pas. Je crois pas. Ça, tôt ou tard, ça fane, ça meurt comme une rose. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur l'amour.
Vous êtes un poète, Jean.
Ah, je sais pas, je suis pas sûr, mais j'ai eu l'expérience en amour, alors je peux dire ce que, en connaissance de cause, j'ai quand même eu quelques aventures avec des femmes, mais ça dure pas. Coup de foot, c'est trop beau, mais c'est éphémère.
Merci Jean. André, tu sais, chers auditeurs, chères auditrices, vous savez, je galère en amour depuis un petit moment. Et là, je viens de matcher en direct avec une des personnes que j'interrogeais. Donc, peut-être que je vais appliquer tous les conseils qu'on m'a donnés. La confiance, aucune attente. Donc, je ne vais pas attendre que Manon m'envoie un message en premier. Donc, Manon, un commentaire ?
C'est sa faute à lui. C'est pas moi.
Alors déjà, on dit c'est grâce à lui. Le mot, c'est grâce à lui. Et Gaspard, on va commencer par une petite disquette bien marrante. On va trouver quelque chose. Alors moi, j'avoue pas de disquette. Généralement, les gens viennent à moi, donc je sais pas trop.
Oh là là.
Ouais, tout ça pour te dire, André, que le hasard des choses fait que bah, peut-être que l'amour frappe à la porte. Chers auditeurs, chères auditrices, voilà. Je suis surpris, je ne m'attendais pas à tel retournement de situation. Écoutez, bonne fin d'épisode. Moi, je suis en train de boire un verre. J'ai des choses à faire, là. Allez, salut tout le monde. Bisous.
Truffaut, Mouret et beaucoup d'autres films, la sélection ciné à brûle-pourpoint de Pierre Maillet, qui perce les mystères de l'amour.
Bonjour à toutes et à tous, c'est encore Pierre Maillet qui vient vous faire partager ses souvenirs de cinéphile assidu et non de spécialiste. Et pour ce nouveau podcast très large, c'est un peu difficile pour moi parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça dans le cinéma. Enfin, il y a beaucoup ça, à savoir les histoires d'amour finissent toujours mal. Alors, comme il y en a beaucoup, vu que le mélodrame est aussi un genre que j'affectionne particulièrement, ben du coup, c'est plutôt des images, des plans, des sensations de plusieurs films que j'ai envie de vous faire partager, comme des moments importants aussi dans ma carrière de spectateur et de tous ces films où j'ai souvent pleuré, comme je le dis dans le spectacle Une vie d'acteur. Alors ben là, à brûle-pourpoint encore une fois, c'est Catherine Deneuve sur le quai d'une gare à Cherbourg avec la musique de Michel Legrand, où, en accord avec Jacques Demy, rajouter des mouchoirs, comme ils disent, pour faire encore plus pleurer. C'est Fassbinder, encore et toujours, avec l'histoire d'amour réelle, pour une fois chez lui, de Brigitte Mira et Lady Ben Salem, à savoir Amy et Ali, dont tous les autres s'appellent Ali. Ce plan à l'hôpital, où elle lui tient la main. C'est encore Fassbinder, mort dans un parking, après s'être fait plumer par tous ses copains bourgeois dans le droit du plus fort et qui se fait plumer une ultime fois par des adolescents qui passent par là. C'est le plan de Glenn Close à la fin des Liaisons dangereuses, qui est en train de se démaquiller après s'être fait conspuer dans un théâtre et avoir toutes ses lettres dévoilées dans la bonne société française de l'époque. C'est les larmes encore de Timothée Chalamet devant un feu de cheminée à la fin de Call Me By Your Name avec encore la sublime musique de Sufjan Stevens. C'est Heath Ledger qui respire encore une fois la chemise de son amant décédé Jake Gyllenhaal à la fin du Secret de Brokeback Mountain. C'est la tête de Jean Rochefort qui attend toujours sa coiffeuse dans Le mari de la coiffeuse. Et c'est les larmes, encore une fois, d'Evan McGregor à la fin de Moulin Rouge, quand Nicole Kidman meurt sur scène. On a beaucoup parlé d'elle, mais très peu de lui. Voilà, comme ça, à brûle-pourpoint. encore une fois, mes souvenirs d'histoires d'amour qui finissent mal. Il y en a évidemment beaucoup, hein, on pourrait y passer des heures. Et puis, bon, histoire de quand même un peu préciser mes envies comme ça, dans ce que ça m'évoque, que les histoires d'amour finissent mal. Il y a un film magnifique de François Truffaut, La femme d'à côté, avec cette phrase emblématique « ni avec toi, ni sans toi ». Et puis il y a un cinéaste que moi j'ai découvert il y a 3-4 ans, un cinéaste français qui s'appelle Emmanuel Mouret. Et alors on pourrait dire que là pour le coup, après les grandes tragédies dont je viens de dégrainer quelques plans, lui c'est un cinéaste extrêmement émouvant, déjà parce que je trouve qu'il renoue avec une tradition du cinéma français, moi que j'aime énormément, qu'on pourrait qualifier de littéraire ou de... mais sans oublier la sensibilité et l'émotion. Je pense que c'est plutôt un héritier direct de François Truffaut, voire de Woody Allen, pour la légèreté apparente. Et moi, je l'ai découvert donc il y a 3 ans, je crois, avec Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, qui est un film choral qui entremêle comme ça plusieurs destins, toujours l'amour, hein, au milieu. C'est vraiment un film que j'avais énormément aimé. Et là, il vient de sortir Chronique d'une liaison passagère, qui est l'histoire d'un adultère absolument assumé, en tout cas surtout par Sandrine Kiberlain, qui vit une aventure avec Vincent Macaigne. Et c'est un très 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 beau film, parce que déjà, c'est un gros plan comme ça sur leur liaison à eux. On ne voit pas du tout l'entourage de l'un ni de l'autre. Toutes les scènes qu'on voit, eh bien, c'est eux qui assument comme ça cette relation, entre guillemets, pour se faire du bien. Et puis, on se rendra compte que finalement, de manière extrêmement légère et puis très, très, on va dire, fine, bah, on se rend compte que même s'ils ne veulent pas être passionnés, quand même une véritable relation naît. Et je ne vous en dirai pas plus parce que le film, je crois, marche très bien au cinéma. Donc, courez-y si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis, peut-être rattrapez-vous avec Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, qui doit être facilement trouvable en VOD ou DVD. Et puis, ben, pour la femme d'à côté, pour Brokeback Mountain, pour Fassbinder, pour Douglas Sirk, pour tous ces maîtres du mélodrame. Eh bien, voilà, là, on pourrait y passer une année entière. Et malgré tout, ce sont quand même des films qui font du bien, parce qu'ils célèbrent l'amour. Oh là là, donc sur cette grande phrase, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. C'était Pierre Maillet.
Prier pour paix, de Francis Poulenc, sur un texte de Charles d'Orléans, par Andrei Maximov, baryton, et Levi Gerke, piano, de l'Opéra Studio. Oh! C'était Les histoires d'amour finissent mal, en général, et c'est notre dernier podcast.